Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Gisèle Cage.
Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette édition du journal. Voici les principaux titres. Retour progressif des habitants de Walikale Centre après l'occupation de la cité mercredi soir par le rebelle du M23 et leurs alliés. Certains habitants commencent à regagner leurs habitations. Cependant, la situation reste tendue sur l'axe Walikale Centre-Lubutu où des affrontements et des scènes de pillage persistent. Match crucial pour la RDC en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Ce soir à 17h au stade des Martyrs, la RDC affronte le Soudan du Sud pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Actuellement 3e du groupe avec 7 points en 4 rencontres derrière le Sénégal et le Soudan. Les Léopards doivent impérativement gagner pour se repositionner dans le groupe. Un match à ne pas manquer. Pourquoi le sommeil est-il si important pour notre santé? Le sommeil permet au corps de se reposer, de se régénérer, renforce le système immunitaire, améliore la mémoire et la concentration et contribue à la régulation des émotions selon les spécialistes. On en parle tout à l'heure avec Monsieur Ernest Radjabou, psychologue clinicien et conseiller au personnel de la MONUSCO. Il est notre invité. Restez avec nous pour plus de détails sur ces sujets et bien d'autres encore. Bienvenue à tous sur Radio Kapi. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce vendredi à Windhoek, capitale de la Namibie, pour assister à la cérémonie d'investiture de Madame Netumbo Ndemupelila Nandi Ndaitwa, récemment élu président de la République et selon la présidence congolaise. Cet événement historique coïncide avec la célébration du 35e anniversaire de l'indépendance du pays. Plusieurs chefs d'État africains, principalement ceux de la région d'Afrique australe, participent à cet événement historique, initialement prévu au stade de l'indépendance, mais déplacé à la dernière minute au palais présidentiel en raison des intempéries, a déclaré une source officielle. Au Nord Kivu, les habitants de Walikale Centre commencent à retourner dans la cité après son occupation par les éléments du M23 et leurs alliés mercredi soir. Pendant ces temps, les équipes humanitaires poursuivent leurs opérations dans la cité pour retrouver d'éventuels blessés et récupérer les corps afin de prévenir l'apparition d'épidémies. Cependant, la situation reste tendue sur l'axe Walikale Centre Lubutu où des affrontements et des pillages persistent. Le point avec Grace Hamzati.
Bien que certains habitants commencent à regagner Walikale Centre après l'occupation du M23, leur retour reste extrêmement timide selon des sources locales. Il s'agit principalement des personnes qui avaient fui vers les environs immédiats de la cité et non celles qui s'étaient déplacées plus loin. Parallèlement, la population dénonce des pillages systématiques perpétrés par des hommes armés en tenue militaire dans de nombreux villages et agglomérations de la région, notamment à Mubi, Njingala, Logu, Birue, Makana et Kangama, jusqu'à la limite entre le Nord Kivu et la province du Maniema. Ces pillages sont d'une ampleur considérable. Animaux de basse-cour, marchandises de boutique, bien personnel, rien n'est épargné. Cette situation engendre une psychose généralisée dans la zone. Face à cette situation, les habitants de plusieurs villages préfèrent se réfugier à l'écart des axes principaux et mettre leurs biens à l'abri pour éviter les pillages.
En lien avec les tensions armées dans l'est de la RDC, la rébellion du M23 AFC contrôle actuellement plusieurs zones minières stratégiques dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cette situation renforce leur emprise sur des ressources minières clés de la région, entraînant une perte énorme de recettes pour le gouvernement et la suspension des activités de certaines entreprises minières. Le détail avec Martial Papimukeba.
Dans le Nord Kivu, le M23 AFC a récemment pris le contrôle de la cité de Walikale, riche en minerais tels que le coltan, l'or et la cassiterite, notamment avec la mine de Bissier, l'une des plus riches en été au monde. La rébellion contrôle également la zone minière de Rubaya, riche en coltan, située dans les territoires de Masisi. De plus, le M23 AFC contrôle également la zone où se trouve l'importante mine de pyrochlore de Loueche, dans la chefferie de Buito, en territoire de Rutshuru. Ce site, jadis attribué par les gouvernements à la société minière du Kivu, Somi Kivu, n'avait pas été exploité depuis plusieurs années. Dans les territoires des Lubero, les rebelles contrôlent des zones aurifères comme Moussia, ce qui avait contraint les leaders du groupe armé FPPAP à les rallier pour préserver ses intérêts miniers. Dans les sites Kivu, la rébellion contrôle la cité minière des Lumbishi, riche en tourmaline, coltan, or et cassitérite dans les territoires des Kalehe. Ces occupations renforcent l'emprise du M23 AFC sur des ressources minières clés au détriment du gouvernement.
Sachez aussi que le ministre angolais de Relations extérieures, Tété Antonio, s'est dit stupéfait par la rencontre entre le président du Rwanda, Paul Kagame, et de la RDC, Félix Tshisekedi, qui a eu lieu le 18 mars à Doha, au Qatar. Interrogé hier par la presse à l'aéroport international le 4 de février de Luanda, en marge de la fin de la visite du président de la Commission de l'Union africaine en Angola, il a estimé que tous les efforts en faveur de la résolution des conflits sont les bienvenus, mais a insisté sur le fait que le problème africain doit trouver des solutions africaines. Tété Antonio a également souligné que le président angolais João Lourenço avait été surpris par l'initiative du Qatar qui a permis cette rencontre entre les deux dirigeants. Rappelons que l'Angola, qui pilote le processus de Luanda pour la paix dans l'est de la RDC, tente depuis quelques jours d'amener le gouvernement congolais et la rébellion du M23 a engagé des négociations directes. Au sud Kivu, reprise des combats ce matin dans le haut plateau des Minembwe, d'après l'administrateur du territoire de Fizi, le FRDC et le Wazalendo ont lancé un assaut sur les positions de la coalition Twiraneho et Gumino actifs dans la zone. Plusieurs habitants ont fui leur village, toujours d'après la même source. Dans son tweet ce matin, le sénateur Moïse Nyarugabo confirme ces informations. Il affirme que les FARDC et Wazalendo venus de Fizi viennent de reprendre leurs attaques à Mukoko en direction des Kakenge. Hier jeudi, plusieurs attaques armées ont été enregistrées dans plusieurs villages, dont Gawera et Kivumu. Restons au sud Kivu. Quatre personnes présumées responsables de la montée de la criminalité dans la province du sud Kivu ont été lynchées publiquement hier jeudi. Trois d'entre elles ont été tuées à Bukavu et une autre à Ikoma, dans les territoires de Walungu. Cette pratique se déroule dans une province où le système judiciaire et la police ne fonctionnent plus depuis la prise de la ville par l'AFC M23 allié au Rwanda. Le détail avec vous, Jude Bilonda.
Ces cas de vindicte populaire est la conséquence directe des tueries en série qui s'opèrent régulièrement dans la ville de Bukavu et dans les territoires qui échappent au contrôle de l'autorité de l'État. À titre illustratif, un jeune du quartier Buholo dans la commune de Kadutu a été tué la nuit du mercredi au jeudi 20 mars par un groupe de voleurs à main armée. Le lendemain, les autres jeunes se lancent à la recherche des meurtriers et tombent sur un présumé assassin dans un quartier voisin. Il est malmené, battu à mort et son corps brûlé sous les applaudissements de la foule en furie. De tels cas, des règlements de compte sont légion. Hier, une autre personne présumée appartenir à la bande de voleurs qui ont occasionné les pillages au marché Mugogo la veille a été tuée à Ikoma. La population a retrouvé sur lui quelques effets volés au marché. Une arme à feu, supposée ayant servi à la commission du crime, a été découverte dans sa main. Les habitants l'ont achevée à l'aide des armes blanches. Les organisations de défense des droits de l'homme du Sud Kivu dénoncent et regrettent les dysfonctionnements de la justice, l'inexistence de la police dans les entités sous contrôle de la rébellion.
Le patron de HJ Hospital, Harris Zaktani, a été arrêté dimanche soir 16 mars. Il a été interpellé par les agents du Conseil national de cyberdéfense, selon des informations en notre possession provenant de certaines sources des services de sécurité et de renseignement. Plusieurs accusations pèsent contre lui, notamment le financement de rebelles du M23 AFC. Nos sources indiquent qu'il leur fournirait nourriture et médicaments. Harris est à la tête de plusieurs entreprises opérant dans divers secteurs en RDC, notamment Supreme Automobile Mercedes, Hilton Hotel Kinshasa, HJ Hospital, Modern Construct et Serve Air, Immeuble CTC Mall, la Fondation HJ, HJ Pharmacie, Dépôt Pharmaceutique et Kinshasa Cité Jardin. Comme annoncé dans le titre, la RDC joue contre le Soudan du Sud ce soir à 17h au stade des Martyrs. Match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 3e du groupe avec 7 points en 4 rencontres derrière le Sénégal et le Soudan. Les Léopards doivent gagner pour se reclasser dans le groupe tout feu, tout flamme. En club, Cédric Bakambu est heureux de retrouver la sélection près d'une année après. Pour lui, les Léopards ont tous à cœur de gagner ce match, même s'il n'y a pas de match facile. Il l'a dit au micro de Vanessa Nkongolo.
Je suis jamais parti, je suis toujours là. C'est vrai que j'ai eu une blessure qui m'a écarté des terrains pendant pas mal de mois, pas mal de temps. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis en bonne santé. Bah, c'est toujours un honneur, c'est une fierté. Ça fait très longtemps que j'ai pas porté le maillot, mais c'est pas la première fois dans ma carrière. Donc voilà, je sais rebondir et maintenant c'est à moi de le démontrer sur le terrain. En ce moment, tous les matchs qu'on joue, ils sont exceptionnels parce que voilà, on sait que la situation au pays est dramatique, surtout à l'Est. Et voilà, on aura à cœur de gagner ce match face au Sud-Soudan pour redonner de la joie à tout le peuple congolais. Demain, on doit gagner parce que voilà, on veut terminer en tête de ce groupe et ça passe par des matchs comme celui-ci et on verra comment ça va se passer, mais il y a toujours la pression. C'est un adversaire qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Moi, ça va être la première fois que je les rencontre. On analyse un petit peu les vidéos et on sait que dans le football, surtout aujourd'hui, il n'y a pas de match facile.
Dans la province du Maniema, l'université catholique de Kindu a bénéficié d'une dotation de la part de la Fondation Thérèse Kigoma. Cette dotation qui s'inscrit dans le cadre de sa devise « Offrir un avenir meilleur pour tous » est constituée d'ordinateurs et de livres. Lors de la remise, le représentant du donateur a souligné qu'il s'agit d'une action de bonne volonté visant à investir dans l'humain. Reportage Florence Kizalunga.
Cette dotation est la deuxième du genre à cet établissement. L'objectif du donateur est que les étudiants puissent avoir un avenir meilleur. Abbé Kinumbi Bernard est son représentant.
Nous, on ne cherche pas des intérêts, ni politiques, ni quoi que ce soit. Mais c'est plutôt l'homme. On voudrait mettre l'homme debout. On voudrait promouvoir l'être humain. Et la Fondation Thérèse Kigoma n'a pas que l'université ici qui l'aide. Il y a des étudiants aussi qui ne sont pas de l'université catholique qui bénéficient de bourses ou des appuis financier de la Fondation Thérèse Kigoma.
Au nom de l'institution bénéficiaire et des étudiants, le professeur Jean Assani a salué la générosité du donateur tout en mettant l'accent sur la valeur du don reçu.
Nous venons de recevoir un don de la Fondation Thérèse Kigoma de M. Peter Molicho de Kinshasa. C'est un grand lot des ordinateurs, plus trois gros cartons de livres venant de l'Europe jusqu'à Kindu, vous imaginez. C'est un grand don pour nous, parce que nous sommes une université, nous avons besoin des livres. Les livres, c'est cela qui fait la colonne vertébrale d'une université.
Signalons que l'Université catholique de Kindu a ouvert ses portes cette année au Maniema. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou a annoncé jeudi 21 mars l'ouverture d'une enquête en rapport avec des messages de haine et des appels au meurtre contre la population Peul du pays diffusés sur les réseaux sociaux. Dans son communiqué, Bakouli Blaise Bazier, le procureur du Burkina Faso, constate que des messages appelant à l'extermination d'une communauté précise sont diffusés sur plusieurs pages Facebook et sur des profils d'internautes. Des messages haineux qui rappellent le procureur sont passibles de lourdes sanctions selon le code pénal. Le message en question cible la communauté Peul avec des slogans sans aucune équivoque du type Opération Zéro Peul dans les 45 provinces du Faso. Cette annonce d'une enquête et d'éventuelles poursuites contre les auteurs de ce message intervient après un nouvel épisode d'expédition punitive contre la communauté Peul.
L'invité.
Notre invité est Ernest Radjabou, psychologue, clinicien et conseiller au personnel de la MONUSCO. Il s'exprime sur l'importance du sommeil à l'occasion de la Journée mondiale du sommeil célébrée chaque 15 mars. Ernest Radjabou s'entretient avec Gloria Lutula Kitoko.
Bonjour Monsieur Ernest.
Bonjour.
Quelle est l'importance du sommeil dans la santé de l'être humain ?
D'abord, parlons de la santé mentale qui, selon l'OMS, est l'état de bien-être complet, l'aptitude à travailler avec succès et de manière productive. Une personne qui a des problèmes de sommeil n'est pas une personne qui peut travailler avec succès d'une manière productive. Il est en perpétuel état de fatigue. Et c'est aussi l'aptitude à relever les défis auxquels on est confronté. Voilà un peu le lien qu'on peut faire. Donc le sommeil lui-même fait partie de la santé mentale. Quand on est en bon état complet de mental, c'est que le sommeil fait partie et notre sommeil n'est pas troublé. Une personne est bien dormie quand elle ne manifeste pas de signes de fatigue le matin. Elle paraît être en forme et elle est productive au travail.
Et comment améliorer la qualité du sommeil?
Un certain nombre de critères doivent être réunis pour bien dormir. Il y en a beaucoup, mais je vais énumérer certains. Par exemple, éviter les activités physiques intenses avant l'heure de coucher. Limiter le temps de passer devant un écran. Le temps qu'on passe devant l'écran, que ce soit la télévision ou l'écran de notre laptop, ou même l'écran de nos téléphones. Il faut limiter le temps qu'on passe là-bas. S'abstenir de consommer de la caféine, le café donc, les repas lourds après 19h surtout, le tabac, l'alcool, pratiquer des exercices de relaxation plus tôt. S'habituer à dormir plus tôt, à 21h par exemple. On dit en général qu'une heure de sommeil avant minuit équivaut à 2 heures de sommeil après minuit. Donc il faut savoir dormir un peu tôt. Faire un exercice de gratitude. Un exercice de gratitude, ça signifie la gratitude qui est un système immunitaire plus fort, qui donne plus de sentiments de joie, qui abaisse la pression artérielle même. Eh bien cet exercice de gratitude, surtout quand on a de l'insomnie, comment on le fait? Voir 5 choses pour lesquelles on est reconnaissant chaque jour. 5 choses, on peut même aller à 3. Des petites choses et les mieux. Par exemple, une belle fleur qu'on a vue, c'est une chose positive. Du soleil sur le visage, c'est positif. Des éclats du rire, un jus délicieux, etc. Donc, on demande à ce que chaque individu puisse s'entraîner dans cette technique de mentalité positive. Ne pas attendre une occasion pour dire merci aux gens autour de soi. Voilà quelques critères, il y en a. La liste n'est pas exhaustive, mais il y a d'autres critères.
Comment améliorer la qualité du sommeil dans des environnements insécurisés?
Comme j'ai dit, nous avons besoin de calme, nous avons besoin de notre sommeil pour pouvoir nous reposer et être productifs dans nos différents services au travail. C'est très important. Les églises font du tapage toute la nuit. Elles peuvent prier dans le silence, faire leur veillée dans le silence, sans utiliser les sons qui dépassent même les seuils, jusqu'à déranger ceux qui sont loin, à des milliers de kilomètres, même à de longues distances. Le bruit crée des maladies et source de facteurs dans les maladies psychosomatiques. On doit réguler cette affaire du bruit. À l'Est, avec tout ce que nous vivons, toutes ces guerres, le sommeil doit être perturbé. Le mental déjà est perturbé. Et aussi, je dirais, les bombes, les balles, tout ce crépitement de balles détruit l'oxygène. Nous demandons aux autorités de pouvoir de mettre la paix par tous les moyens à l'Est pour que nos compatriotes de l'Est retrouvent la vie, retrouvent la joie de vivre.
Ernest Radjabou, psychologue clinicien et conseiller au personnel de la MONUSCO, répondait aux questions de Gloria Lutula Kitoko. Ainsi s'achève ce journal de 15h sur Radio Okapi. À la mise en onde, Alain Goy, coordination juge de mystère Bilanda, supervision Alain Irung Mouchins, présentation Gisèle Cage. Pour suivre autrement le programme de votre radio, restez connectés avec nous sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Merci de tout cœur pour votre fidélité à Radio Okapi.